RCF.
h 10, vous écoutez RCF, une émission spéciale. Tout de suite, nous retrouvons Jean-Pierre Benoît et Alexis Claudretz.
Émission spéciale en direct ce soir. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
Avec notre invité pendant 50 minutes, c'est la première fois qu'il est dans ce studio de RCF France-Ardennes. Nous sommes très heureux de l'accueillir, Monseigneur Étienne Véteux, qui est le nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, et qui était ordonné... C'était samedi dernier, il y a quelques jours. Monseigneur, bonsoir.
Bonsoir, merci pour l'accueil.
Merci d'être avec nous. Nous sommes heureux, bien sûr, de vous accueillir sur l'antenne. Alors, on va revenir, bien sûr, sur votre ordination, qui a été quand même un grand moment pour tout le monde. Alors, on imagine que pour vous, Monseigneur, ce fut, pour vous aussi, un moment assez exceptionnel.
Évidemment, c'était un moment très fort, notamment le moment d'imposition des mains où les différents évêques sont l'un après l'autre ont posé la main sur ma tête et puis ont prié pour que je reçoive l'Esprit Saint pour cette nouvelle mission. Et puis aussi le fait d'un accueil que j'ai senti très très chaleureux de la part du diocèse et puis de beaucoup d'amis qui sont venus.
Alors, c'est vrai, il faut dire, Monseigneur, qu'il y avait aussi, et on était fortement impressionnés, des personnalités à la fois d'autres religions, on pense au primat d'Angleterre, d'autres personnalités aussi qui viennent de Grèce, enfin des patriarches. On peut dire, vous les avez vous-même interrogés, Alexis, on va les entendre tout à l'heure, mais Monseigneur, c'était quand même une célébration qui sortait un peu du diocèse, qui avait une dimension un peu internationale et spirituellement qui donnait du souffle.
Alors, c'est vrai que de toute façon, un évêque, puisque c'est une ordination épiscopale, un évêque en priorité ordonné pour le diocèse, mais il est ordonné pour toute l'Église. Et il fait le lien avec l'ensemble du corps des évêques et puis l'Église dans son universalité. C'est aussi pour ça qu'il y a d'autres évêques qui viennent. Mais là, particulièrement, il y avait cette dimension œcuménique. Et donc, pas forcément d'autres religions, oui, puisqu'il y avait des juifs, mais surtout d'autres dénominations chrétiennes. L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, est une des personnes les plus importantes dans le monde chrétien. C'est, dans un certain sens, l'équivalent du pape pour le monde anglican. Il a 90 millions de fidèles sous sa responsabilité. Donc j'ai été très touché de sa présence et c'était une très grande marque d'amitié pour le diocèse et puis pour l'Église catholique.
Alors il y avait aussi aux côtés de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui présidait la célébration, le cardinal Aveline, l'archevêque de Marseille, et Monseigneur Boccardo, un évêque en Italie, que vous connaissez personnellement, qui vous connaissait personnellement.
Oui, alors c'est la pratique. Quand un évêque est ordonné, un évêque auxiliaire comme c'est mon cas, le consécrateur principal est toujours l'archevêque du diocèse, et j'étais très heureux que ce soit Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, quelqu'un que je respecte beaucoup et avec qui je suis très très heureux à la perspective de travailler avec lui. Mais c'est l'ordinant, la personne qui va être ordonnée, donc moi-même, qui choisit les deux co-consécrateurs. Et j'ai choisi deux personnes qui ont eu beaucoup d'importance dans ma vie. Le cardinal Aveline m'avait accompagné lorsqu'il était jeune prêtre, et moi j'étais en train de me poser des questions de vocation. On s'était retrouvés sur les bancs de la Sorbonne. Et puis Monseigneur Boccardo a été mon patron, si on veut, lors de mes premiers pas comme séminariste et jeune prêtre dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse.
Vous êtes aussi, et vous étiez, et vous êtes toujours d'une certaine façon, plus maintenant, mais prêtre de la communauté du Chemin Neuf, ça veut dire que vous êtes attaché à cette communauté tout en ayant aujourd'hui un regard diocésain, mais toujours attaché à la communauté, forcément.
Comme C'est pas une situation unique. Il y a beaucoup d'autres évêques qui sont des religieux. Il y a des évêques qui viennent de l'ordre des franciscains, des jésuites, même un pape qui vient des jésuites, des dominicains, etc. Donc ça, c'est la même situation pour moi. Je suis religieux, membre de la communauté du Chemin Neuf. Je reste membre de cette communauté. Par contre, au moment où je suis ordonné évêque ou nommé évêque, je suis délié de ce qu'on appelle les relations canoniques. C'est-à-dire de mes liens juridiques avec la communauté, et la priorité qui m'est donnée, c'est le regard sur le diocèse de Reims.
Alexis, vous avez un certain nombre de témoignages, on va illustrer un petit peu cette rencontre. Monseigneur Étienne Vetteux, on est très heureux d'être avec vous. Alors qu'est-ce que vous avez...
Alors avant même, Jean-Pierre, oui. Puisque vous parlez d'illustration, on en joint l'image au son ce soir, puisque Monseigneur Étienne Vetteux est également en direct sur la page YouTube de RCF en Sardaigne.
Absolument.
Donc c'est l'occasion aussi de voir Monseigneur Étienne Vetteux en image. Ça, bien, c'est pour illustrer.
Eh bien, écoutez, si vous n'êtes pas en voiture, parce que c'est un peu délicat de conduire en même temps, mais autrement, vous pouvez bien sûr suivre, parce que beaucoup de personnes aiment bien voir l'image.
Tout à fait. Mais j'ai bien compris votre question. Vous cherchiez des illustrations sonores.
Ben oui, bien sûr.
Évidemment, on en aura aussi tout au long de cette émission. Ça sera l'occasion d'entendre certaines des personnes qui ont été mentionnées par Monseigneur Étienne Vetteux, comme Monseigneur Justin Welby, qui est archevêque de Canterbury, ou encore d'autres personnalités qui sont venues, des amis, etc., même des diocésains aussi, ou même Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui se réjouit d'avoir enfin, on peut le dire comme ça, un évêque auxiliaire.
Alors, le moment de l'ordination, on l'a évoqué tout à l'heure, on va prendre un tout petit extrait, on revit un petit peu, on est à l'intérieur de la cathédrale, il faisait chaud dehors, les vitraux étaient exceptionnels, il y avait même, rappelez Monseigneur Vetteux, une sorte de colombe qui a navigué dans la nef. On est le samedi 9 septembre, il est pratiquement 18h, 17h30, 18h.
Étienne, frère bien-aimé, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains.
Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec grâce et saint.
Voulez-vous annoncer l'évangile du Christ avec fidélité et sans relâche? Voulez-vous garder dans sa pureté, son intégrité, le dépôt de la foi selon la tradition reçue des apôtres, toujours et partout tenue dans l'Église?
Oui, je le veux.
Voulez-vous travailler à la construction du corps du Christ qui est l'Église et demeurer dans son unité avec tout l'ordre des évêques sous l'autorité du successeur de Pierre?
Oui, je le veux.
Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre?
Oui, je le veux.
Voulez-vous, avec les prêtres et les diacres, les collaborateurs de votre ministère, prendre soin comme un père du saint peuple de Dieu et le diriger sur le chemin du salut?
Oui, je le veux.
Voulez-vous, d'un cœur plein de bonté et de miséricorde, accueillir au nom du Seigneur les pauvres, les étrangers et tous ceux qui sont dans le besoin?
Oui, je le veux.
Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche des brebis qui s'égarent pour les rassembler dans le bercail du Seigneur?
Oui, je le veux.
Voulez-vous intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple saint et remplir de façon irréprochable la fonction de grand prêtre et de pasteur?
Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Frères et sœurs, pour Étienne qui a été choisi, prions avec tous les saints du ciel le Seigneur notre Dieu, dans sa bonté et pour le bien de son Église, qui lui donne l'abondance de sa gloire.
Moment important, Monseigneur Étienne Vetteux.
Et très émouvant de le réentendre.
Et juste après, d'ailleurs, ça donne une dimension de diversité. On a entendu la litanie des saints. Et moi, j'avais l'habitude d'entendre toujours à peu près la même chose en latin, classiquement. Et là, on était au Congo, il y avait une musique congolaise formidable. Moi, j'ai trouvé que c'était formidable. C'est vous qui avez souhaité quand même qu'il y ait cette litanie
Alors, juste, je peux vous dire, en réécoutant les promesses que j'ai faites, je me rappelle que avant la célébration, je me suis dit, mais c'est impossible de vivre cela. Et en le disant, et puis à ce moment on dit avec la grâce de Dieu, j'ai réalisé que de fait c'est impossible, mais puisque c'est l'appel de l'Église, l'appel de Dieu, la grâce me sera donnée comme je pourrais la recevoir. Mais de fait, pour la litanie des saints, c'était une proposition que j'avais faite. C'est une litanie qui provient du Congo, qui est à la fois très solennelle, mais aussi très dynamique. Et parce que la communion des saints est quelque chose de dynamique. Et bon, c'est intéressant d'écouter donc il y a d'une part la dimension interculturelle. L'Église est aux avant-postes de l'humanité dans cette dimension de la rencontre des cultures, de savoir pas simplement se supporter, mais savoir écouter l'autre et partir de la perspective de l'autre. Et puis, bon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter les noms des saints qui étaient chantés. Alors, bien sûr, il y avait les saints du diocèse de Reims. C'est très important d'être accueilli par ses frères aînés ou ses sœurs aînées. Mais il y avait aussi beaucoup de saints au départ de l'Ancien Testament. C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours dans les litanies des saints, mais on a choisi de développer cette dimension pour ancrer mon ministère et puis surtout rappeler que l'Église est ancrée, enracinée dans le peuple juif.
Dans l'Ancien Testament, dans le peuple juif, d'ailleurs, vous avez tenu à saluer un certain nombre de personnes de confession juive qui avaient tenu à participer à cette célébration. C'est important et peut-être ça, c'est quelque chose que vous pouvez apporter au diocèse, c'est cette dimension qui nous ouvre à partir de l'Ancien Testament, mais aussi après tout ce que vous avez vécu à Rome et aussi à Jérusalem tout récemment, cette dimension, qu'est-ce que le peuple juif, qu'est-ce que l'histoire du peuple juif peut nous apporter ici dans notre diocèse de Reims et des Ardennes.
C'est sûr qu'il y a, pour moi, il y a une double dimension ici. Il y a une dimension très personnelle dans le sens que mon père était d'origine juive et ça a été mentionné pendant la célébration, mais un grand ami de la famille, c'était le cardinal Lustiger, et dans un certain sens, je reconnais un parcours commun, en tout cas dans sa dimension de ce lien entre le judaïsme et le christianisme. Mais dans ces dernières années, j'ai été responsable d'un centre d'études juives à Rome, et puis j'ai eu la chance d'être en sabbatique, en période sabbatique à Jérusalem. Et il me semble que, d'abord, il y a eu un changement très profond dans ces dernières 30, 50 années de perception de la part de l'Église catholique du peuple juif en disant le peuple juif n'a pas perdu l'élection, le peuple juif demeure peuple élu et donc a un rôle essentiel encore maintenant et jusqu'à la fin des temps dans l'histoire du salut. Et très concrètement, je peux dire que il y a deux ou trois points où je vois l'apport que le peuple juif peut avoir pour des chrétiens. Je pense au Shabbat, par exemple. Vous savez, cette pratique que du vendredi soir jusqu'au samedi soir, il y a un repos total. Alors, le christianisme a développé le dimanche. Alors, c'est le jour de la résurrection. Il y a quelque chose de magnifique dans ce dimanche. Mais nous n'avons pas conservé une telle qualité de repos. Or, notre société nous montre bien que nous avons besoin de ce repos, de cet arrêt. Et je pense que le peuple juif, pour l'Église et pour la société, peut apporter ça. Et puis, la dimension familiale de la religion juive, c'est une religion qui est beaucoup plus centrée sur la famille que sur la synagogue. Les chrétiens ont parfois du mal à comprendre à quel point les choses les plus importantes se passent en famille. Et j'ai remarqué, par exemple, pendant la période de confinement, que l'Église cherchait des moyens de faire. Alors on a trouvé beaucoup, avec beaucoup de créativité, des messes par Internet,
Facebook,
etc. Oui. Mais dans le monde juif, la vie de prière en famille continuait et était un socle très solide. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose que l'on peut recevoir.
On va finalement y revenir sans doute tout à l'heure encore sur cette dimension. Alexis, vous êtes toujours forcément bien branché sur votre smartphone parce que vous envoyez des SMS, des gens qui nous appellent, des gens qui...
On envoie surtout les liens via les réseaux sociaux, les visuels, etc.
Vous pouvez nous suivre sur YouTube. Vous aviez d'autres témoignages, très courts d'ailleurs, de personnes, de personnalités qui étaient à l'ordination de Mgr Étienne Véteux.
Effectivement, notamment Mgr Justin Welby, l'archevêque de Canterbury, qui était là, qui était bien présent à cette célébration. Mgr Véteux nous le disait lui-même, qu'il a été marqué par cette présence et par cet homme qui fait partie de votre vie, Mgr Véteux. Mgr Justin Welby au micro de RCF.
C'est parce que Étienne a été ami depuis 15 ans. Nous avons travaillé ensemble en France et à l'étranger, à New York. Donc c'est pour ça. Et j'ai eu l'opportunité assez rare de venir en France parce que normalement j'étais libre aujourd'hui. Donc je suis venu pour être là. Premièrement, c'est quelqu'un qui aime Jésus et qui aime les gens. Donc il est une personne d'une humanité remarquable, exceptionnelle. Deuxièmement, il est bien sûr professeur à l'université. C'est quelqu'un plein de sagesse. Il peut bien comprendre les problèmes d'aujourd'hui, mais c'est pas quelqu'un qui est caché derrière son expertise théologique. C'est quelqu'un qui est avec les gens.
Et les hommages de vos frères anglo-saxons, Monseigneur, se sont succédés puisqu'on a également rencontré un prêtre venu de New York. Alors vous le direz peut-être mieux que moi, mais le père Patrick Mulway, c'est comme ça qu'il faut le dire?
Alors, à New York, on dit Malloy.
On dit Malloy, bon.
Peut-être qu'il lui-même s'est adapté à
la
langue
française.
France,
voilà. Bon, allez, on va écouter en tout cas le père Patrick Mulway.
Il est intelligent, mais il est un homme de grand cœur. Est-ce qu'on dit ça? Il aime bien le Dieu et les personnes, les chrétiens. Il est un bon mec.
Voilà, c'était donc...
Le père Patrick Mulway.
Voilà, vous dites mieux que moi.
Comme on le dit à New York.
Et puis, vous avez aussi des témoins, des personnes qui connaissent dans leur parcours Monseigneur Étienne Vetteux.
Notamment des membres de la communauté du Chemin Neuf à l'image d'Aster.
Oui, c'est un grand moment, c'est pour ça que je suis venu. L'ordination d'un évêque, c'est pour tout catholique. C'est un événement important parce que c'est le berger du troupeau. Donc moi personnellement, comme je connais l'évêque qui était le père Étienne Vetteux, connaissant son charisme, je sais que le diocèse et l'église en général va gagner beaucoup par son charisme.
Et puis d'autres témoignages également, Monseigneur Vetteux, qu'on a recueilli. Alors le terme ami est peut-être un petit peu fort pour le témoignage que l'on va entendre, mais en tout cas au fil de votre carrière, déjà vous avez rencontré aussi de nombreux journalistes, et notamment Emmanuel Van Nierdeuk qui est venu de Belgique exprès pour assister à votre ordination.
Je le connais de Rome comme professeur sur les relations entre les chrétiens et les juifs. On a collaboré ensemble. J'étais rédacteur en chef d'un hebdomadaire chrétien en Flandre et on a publié des articles de lui en néerlandais. Et il est aussi une fois venu pour un congrès pour notre jubilaire du 20e anniversaire. Pour cela, je suis venu. Son spécialité, c'est aussi les relations avec les juifs. J'espère qu'il peut encore soutenir ces relations. Mais il est aussi un homme joyeux, un peu de background personnel migratoire. C'est aussi un thème peut-être. Et aussi, il est un prêtre de Chemin Neuf. Donc, j'espère qu'il peut surtout aussi aider l'archevêque qui a aussi d'autres tâches comme président de la conférence épiscopale.
Monseigneur Vetteux, quand on entend tous ces témoignages, nous-mêmes, on est heureux de les écouter. Et puis, on a cette dimension internationale avec dedans la communauté du Chemin Neuf, mais aussi les chants d'ailleurs derrière avec la maîtrise qui...
On tient quand même à dire que c'est au moment de la répétition.
Ah, c'est au moment de la répétition.
C'était pas en pleine célébration.
Non, vous nous rassurez.
On a laissé les gens profiter du moment.
En tout cas, Monseigneur Étienne Vetteux, quand on entend tous ces témoignages, on...
Je suis impressionné, ça m'impressionne d'entendre ça. Je vais faire 2-3 remarques peut-être sur l'ensemble des témoignages. La première remarque, c'est que Justin Welby, l'archevêque de Canterbury, et Patrick Mulway de New York ont parlé de moi dans des termes que je n'oserais pas utiliser, en disant que j'étais un homme qui aimait Dieu et qui aimait les autres. Alors si c'est vrai, c'est la chose la plus belle qu'on puisse dire de quelqu'un. J'espère vraiment de tout cœur pouvoir vivre cela. Mais en tout cas, ma devise épiscopale, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Et bien sûr, dans « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » est inclus « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pour moi, c'est, j'espère que le soir de ma vie, comme pour chacun de nous, on pourra répéter ces paroles de l'archevêque de Canterbury et de Patrick Mulway. Et peut-être une deuxième remarque aussi, c'est pour, en fait, là, on a le témoignage de 2 anglicans et puis de 2 catholiques. Aster Simbaré vient de Burundi et puis Emmanuel Van Lierde est un catholique des Pays-Bas. La dimension œcuménique de cette ordination correspond réellement à aussi ce qui une passion de ma vie et puis un appel de la part de Dieu. je pense, je l'ai dit d'ailleurs à la fin de l'ordination, le christianisme au XXIe siècle sera uni ou ne sera pas, parce que le christianisme est là pour donner témoignage à l'amour de Dieu. Jésus dit « Voyez comme il s'aimait ». C'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres qu'on pourra être reconnu pour ses disciples et qu'on donnera le témoignage de ce que le christianisme peut apporter.
Et cette célébration pouvait préfigurer de ce qu'on pouvait attendre plus tard d'un rassemblement de tous ces chrétiens et de toutes ces religions d'un peu partout. Vous l'avez dit, puis tout le monde a applaudi juste aussitôt.
C'est vrai, j'ai été très frappé par ça, c'est que je m'attendais pas forcément à des applaudissements de tout court, et puis même précisément à ce moment-là, et c'est le moment, au moment où j'ai parlé de l'unité des chrétiens et au moment où j'ai parlé du peuple juif, que l'assemblée spontanément a applaudi.
Alors il y a des personnes connues de l'extérieur, il y a aussi des diocésains de Reims et des Ardennes, propos que vous avez recueillis, Alexis.
Effectivement, on en a rencontré quelques-uns, alors parmi un melting pot, parce qu'ils étaient nombreux évidemment dans cette cathédrale qui avait fait le plein, on a rencontré Vanina, Jacqueline, Lucien ou encore Carole.
Alors pour moi c'est une grande joie, notre archevêque va pouvoir être secondé, donc je suis ravie que cet évêque arrive et j'espère que nous allons bien l'accueillir.
Oui, c'est une grande fête, une grande joie pour nous tous parce que finalement on voit notre archevêque fatigué et on est bien content qu'il soit secondé agréablement par Monseigneur Véteux.
Je suis très heureux de savoir qu'un tel homme soit nommé évêque auxiliaire de l'archevêque de Reims. C'est vraiment, je suis très heureux. J'ai pu lire un petit peu son curriculum vitae qui a été pour moi un étonnement. Et puis une projection sur son avenir. J'habite les Ardennes chez ma fille, alors j'aurai peut-être l'occasion de le rencontrer, peut-être. Et ce que je pense qu'il peut apporter au diocèse, c'est la vérité et une jeunesse.
Je tenais à participer à la messe d'ordination pour témoigner aussi de ma foi et aussi vivre avec la communauté cette messe d'ordination parce que c'est très important pour nous d'avoir un évêque auxiliaire pour Adaltum et aussi pour toute l'église de Reims.
Réaction des diocésains, votre réaction, Seigneur?
Alors, c'est vrai que je me suis senti vraiment très, très chaleureusement accueilli. J'étais frappé par le nombre de personnes, tout simplement, et par la ferveur, l'intensité. C'est une première chose. Deuxièmement, dans les témoignages, il était question de l'aide que je pourrais apporter à l'archevêque, et c'est sûr que c'est ma première mission. Je ferai tout ce que je peux pour le seconder, collaborer avec lui, le soutenir dans ses nombreuses responsabilités. Puis je me répète, mais je suis honoré qu'il soit mon archevêque, et je suis sûr que il m'apprendra beaucoup de choses et que ce sera la meilleure manière d'entrer dans ce nouveau métier d'évêque. Sinon j'ai pas retenu les noms, le monsieur qui parlait
des
Ardennes, Lucien, voilà. Mais je serais très heureux effectivement d'aller rencontrer Lucien dans les Ardennes.
95 ans, il avait fait le chemin pour venir à votre ordination. Alors, c'est exceptionnel.
Donc c'est maintenant mon tour d'aller dans les Ardennes. J'ai été avec Monseigneur de Moulin-Beaufort deux ou trois fois déjà dans les deux semaines.
À Saint-Valfroy notamment.
À Saint-Valfroy, j'ai rencontré quelques personnes, mais pas encore suffisamment. Mais en tout cas, j'ai trouvé que les paysages étaient magnifiques. Je serais très heureux maintenant de pas simplement voir les paysages, mais de rencontrer les personnes.
D'ailleurs, Monseigneur, vous ne savez peut-être pas, mais vous parlez à deux Ardennais, là, en direct.
Oui, enfin, on est rémois d'adoption depuis quelque temps, mais c'est vrai que on a fait quelques petits voyages, mais c'est vrai que, y a beaucoup de gens qui nous écoutent. J'allais dire, né à Rethel, mort à Vouziers, vous comprenez, Monseigneur. Alors que votre dimension, ça donne une ouverture. On est ici au sein de l'Institut catholique de Paris qui est en dessous de nous. Il y a des étudiants d'un peu partout. Vous allez sans doute rencontrer des étudiants, des jeunes, où ils sont quand même à la recherche de sens à donner à leur vie, à des moments clés de leur existence, où ils peuvent faire des choix. Et ils attendent quand même des paroles fortes. De gens qui quand même ont une culture un peu générale, spirituelle, qui donne du souffle. Et ça, vous pouvez sans doute apporter pas mal de choses.
De toute façon, que ce soit dans une métropole comme New York ou Rome, ou que ce soit dans à la campagne, ou je me suis rendu compte que à la fin, le plus important, c'est la personne individuelle. Chacun est un trésor, a un trésor, et quand on entre vraiment en relation avec quelqu'un et on écoute sa vie, et donc là, je pense que là, c'est moi qui vais recevoir de chacun. Mais c'est vrai que j'ai cette, je dirais plutôt une chance que, d'avoir beaucoup étudié, beaucoup lu, enseigné, écrit.
Vous avez d'ailleurs dit, en vous adressant, je crois que votre mère devait être là dans l'assistance, que vous remerciez votre famille de vous avoir donné le goût des livres. Parce qu'aujourd'hui, on est souvent sur les smartphones, on zappe, on va d'image en image. Mais la lecture, l'approfondissement, la philosophie, la connaissance, le raisonnement, ben ça se prépare, ça, il faut des années pour ça. Et ça, je crois que vous avez remercié votre famille.
Oui, je pense que c'est une grande chance. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est que quand j'ai appris à lire, donc à 6-7 ans, j'étais tellement passionné par les livres que je me réveillais au milieu de la nuit et je me mettais à lire. Et mes parents, quand ils se sont rendus compte de ça, m'ont interdit de me réveiller avant 6 heures du matin pour lire. Et je me rappelle encore, comme enfant, je regardais l'horloge, parce que j'étais obéissant, je regardais l'horloge et la main de l'horloge arrivait progressivement à 6 heures, et à 6 heures j'allumais la lumière et je me mettais à lire. Donc ça fait vraiment partie de ma vie. Mais en fait, il y a deux manières d'étudier. Il y a une manière où on qui est très livresque, et puis il y a une manière où dans le livre on rencontre le Christ, on rencontre la vérité de Dieu, et j'espère que c'est ça que je pourrais transmettre, c'est ces moments où il s'agit pas uniquement de connaissances, mais de faire l'expérience de Dieu.
C'est vrai que dans notre société, Monseigneur, vous aurez l'occasion de parler sans doute souvent, il y a beaucoup d'individualisme. Chacun pense à son petit domaine, à la réussite personnelle, à gagner un peu d'argent. Bon, c'est quand même quelque chose contre lequel il faut parfois se mobiliser. Et vous-même, là-dessus, vous avez un point de vue ?
Alors, peut-être que c'est l'expérience internationale qui m'a éclairé sur cette question, puisque j'ai aussi vécu dans deux pays d'Afrique, en Côte d'Ivoire pendant 4 ans et au Congo, Brazzaville, pendant 2 ans. C'est que j'ai l'impression que l'Occident a développé l'idée de l'individu et même la réalité de l'individu autonome, du fait que on peut se marier en choisissant soi-même et pas forcément en suivant ce que la famille va dire, qu'on peut prendre des décisions dans sa vie de ce genre. Et ça, je crois que c'est une chance immense. Du coup, il faut pas uniquement décrier l'individualité, mais peut-être l'individualisme, c'est-à-dire quand on ne voit que ce côté-là. Et en Afrique ou dans certains voyages en Asie, j'ai vu à quel point ces peuples avaient conservé le côté de la communauté, la famille, le village, la communauté plus large, et puis même cette idée qu'on fait partie d'un tout, de toute l'humanité, même aussi avec le cosmos, le lien à la nature.
Tout est lié.
C'est ça, tout est lié. Or, je pense que l'avenir de l'humanité, ce sera de réussir à tenir ensemble ces deux. On a besoin, cette richesse de l'individu, de la liberté, et on a besoin de tenir le rapport à quelque chose de plus grand que nous.
On le voit dans nos sociétés, entre les personnes plus âgées dont on parlait, dont Lucien, 95 ans, et puis des jeunes, parfois, les coupures générationnelles, alors qu'en Afrique, par exemple, on est attaché aux sages. Là aussi, il y a toute une éducation et une évolution peut-être à faire comprendre dans nos sociétés, parce que le monde est en attente, les gens sont en attente.
Oui, à la fois on avance vers de plus en plus d'individualisme, et en même temps il y a une soif très très profonde qui reste dans le cœur des hommes du lien social, du lien familial, je consonne bien avec ce que vous dites, le fait que une des difficultés, c'est le rapport entre les générations. Actuellement, les générations sont souvent coupées les unes des autres. Alors ça existe depuis des siècles, il y a des inscriptions sur des pyramides en Égypte disant la nouvelle génération est terrible, elle ne comprend rien, etc. Donc toutes les mais il y a quelque chose de particulier on l'a vu dans les émeutes, par exemple, de cette année, on peut avoir le sentiment dans la jeune génération, au moins dans certains endroits, de pas du tout être compris par la société, par le monde politique, par même les adultes plus mûrs. Or, il me semble que l'Église a eu un rôle très important ici. Finalement, une paroisse, un espace missionnaire, une eucharistie ou un temps de prière, c'est presque le seul endroit ou le seul moment où on peut retrouver des personnes de différentes générations rassemblées dans le même endroit.
Depuis 2018, lorsqu'il est arrivé comme archevêque de Reims, Mgr Éric de Moulin-Beaufort a très rapidement souhaité innover en lançant des espaces missionnaires, parce que c'est vrai que le nombre de prêtres avait tendance à diminuer en étant, comme on dit, entre guillemets, opérationnel. Et cet esprit missionnaire, ça aussi, cette innovation-là, ça peut être joué dans le fait que vous ayez accepté aussi de venir dans le diocèse de Reims, parce que c'est pas toujours évident.
Évidemment, quand j'ai dit oui à cette nomination, c'était pas un oui en calculant le meilleur endroit pour le lieu le plus riche ou le plus intéressant, etc. C'était oui. Oui à la suite du Christ, oui à la proposition de l'Église, mais c'est vrai que j'avais beaucoup entendu parler de ce qui se passait à Reims. On en entendait parler à Rome avec beaucoup d'intérêt, et je vois que il y a une réelle pauvreté. Il faut reconnaître que, comme d'ailleurs dans toute l'Église de France et puis dans une grande partie de l'Occident, il y a une vraie pauvreté de l'Église, et puis on est face à des nouveaux défis, mais une très grande créativité. Et je pense que c'est une occasion. Vous avez parlé du manque de prêtres, c'est la réalité. Il faut être réaliste, et en même temps, c'est une opportunité pour que les laïcs puissent développer aussi leurs dons. Donc je crois qu'il y a aussi une réelle opportunité ici.
Alors justement, quand on regarde un CV, et vous avez un CV qui peut être très impressionnant, on dit normalien, agrégé de philosophie, docteur en philosophie, des études en théologie bien sûr, et on se dit, quand vous avez interrogé à Jérusalem, vous avez tout de suite ajouté, mais attendez, j'ai quand même rencontré des personnes, en particulier dans la communauté du Chemin Neuf, où par essence, par existence même de la communauté, vous êtes lié au couple, aux familles, et vous connaissez cette réalité. Donc, on pourrait regarder un CV en disant, les intellectuels, dont on dit souvent qu'ils sont hors sol, vous ne correspondez pas à cette définition-là, Monseigneur. Vous n'êtes pas hors sol.
J'espère que non. C'est vrai que mes 35 ans, 36 ans de vie dans la communauté du Chemin Neuf m'ont aussi beaucoup façonné, et j'en suis très reconnaissant, à la fois à Dieu et au Chemin Neuf. Peut-être les deux choses que je retiens qui vont dans le sens de votre question, c'est d'une part la fraternité. La vie en communauté est un lieu d'expérimentation de la fraternité. Or, c'est un des défis de la société et de l'Église, c'est que souvent on considère une paroisse ou on considère un lieu d'Église comme un pourvoyeur de sacrements, un pourvoyeur de services, alors que au fond, ce dont on a besoin, c'est la fraternité. Et la fraternité, c'est un combat, parce que on a toujours besoin de surmonter des résistances à la fraternité. Donc j'espère avoir un peu appris cela. En tout cas, j'y ai pris goût. Et donc j'espère que je pourrai transmettre. Et puis d'autre part, le Chemin Neuf a cette particularité, comme vous avez dit, que il y a des prêtres, mais il y a aussi des religieuses, il y a des personnes consacrées, il y a aussi des personnes mariées, chacun dans une forme de vie adaptée à son appel, mais tout le monde avec une grande responsabilité pastorale. Or, j'ai vu à quel point c'était riche de travailler avec des laïcs, j'ai vu à quel point c'était riche de travailler avec des femmes, que dans un sens on pourrait dire pendant des siècles, et ça je parle pas simplement de l'Église, c'est une réalité pour toute la société, on n'a pas réellement laissé se déployer les trésors d'une moitié de l'humanité. Or, je pense, c'est une grande espérance pour le XXIe siècle, c'est que un peu contraint et forcé, malheureusement. C'est dommage qu'on y soit pas arrivé de manière plus spontanée, mais nous sommes, je crois, de plus en plus prêts à permettre aux femmes aussi de jouer un rôle avec des vraies responsabilités. Alors ça se passe dans la société, ça doit continuer, comme ça se fait aussi dans l'Église. L'Église actuellement sans le rôle des femmes n'existerait pas, mais des vrais rôles de responsabilité, et on sera réellement enrichi par cela.
Avant de vous retrouver dans une poignée de secondes, on peut, Alexis, retrouver peut-être, je crois, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. C'était à la fin de la célébration, c'était samedi dernier.
Effectivement, parce que c'est vrai qu'on a dit que c'était une grande joie pour tout le monde, pour les amis de Monseigneur Étienne Véteux, pour les diocésains, mais une grande joie aussi pour Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, à la fois d'avoir un auxiliaire dans le diocèse de Reims et des Ardennes, mais aussi d'avoir un frère, ami, évêque, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort.
Oui, ben c'est un grand jour, nous recevons un grand don de Dieu en la personne de Mgr Étienne Véteux. Pour moi, c'est la joie d'avoir un auxiliaire, évidemment, et qui va m'aider, me stimuler ma mission. Mais je crois que c'est pour tout le diocèse un encouragement formidable. Et la belle célébration de ce soir en est le signe. Ben, ça me soulage d'autant plus que depuis 2 ans, je mesure tout ce qui n'est pas fait, tout ce que nous ne faisons pas, parce que nous n'avons pas la force ni l'énergie. Et donc, enfin, un certain nombre de choses vont être accompagnées, soutenues. Et ça, ça me soulage beaucoup, oui.
Vous avez eu aussi, Monseigneur, un premier contact, vous l'avez dit tout à l'heure, à Saint-Valfroid, avec des prêtres du diocèse. Là aussi, vous les avez écoutés, entendus, et vous l'avez d'ailleurs évoqué, je crois même au cours de votre ordination.
Oui, j'étais très heureux de ce moment. C'était un moment très fraternel. Et c'est une très bonne manière d'entrer en faire quelques premiers pas dans la vie du diocèse. Et justement, on parlait de la question de la place des laïcs ou des femmes. Il me semble que c'est important de voir qu'il ne s'agit pas simplement de dire on a besoin de donner de la place à d'autres, nous les prêtres, mais surtout que nous les prêtres, et là je reste prêtre, nous les prêtres, nous pourrons trouver aussi notre place et retrouver des forces parce que d'autres travaillent avec nous et d'autres portent la mission avec nous. Je suis très conscient du fait que ce soit ici ou ailleurs, les prêtres ont porté beaucoup dans ces dernières années. Il y a quelques burn-out, il y a des grandes fatigues, des lassitudes, et j'aimerais donner du temps, de l'énergie pour être proche des prêtres, et confiant que la créativité des espaces missionnaires sera pas simplement pour pallier une situation difficile, mais pour vraiment donner à chacun, redonner de l'énergie à chacun.
Une opportunité peut-être pour le prêtre de retrouver sa mission première, à revenir à la prière, reprendre des temps de détente sans avoir la pression d'une organisation. Ça aussi, ça peut soulager un certain nombre de prêtres et puis permettre, oui, à des femmes, à des hommes de s'engager avec leur vie, leur passion, leur prière dans une vie spirituelle.
Ce qui est important, c'est de pas penser que plus on donne la place à l'un, moins on donne de la place à l'autre. En fait, ce qui se passe dans l'Église, c'est plus on donne la place à l'un, plus on donne de la place à l'autre.
C'est pas un problème de vase communicant qui s'équilibrerait. C'est un problème de dynamique, de souffle qui entraîne tout le monde.
Oui, c'est comme des pôles en tension qui s'enrichissent.
Alors, dans les jours, les semaines qui viennent, comment vous allez vous organiser, vous, Monseigneur, vous allez peut-être avoir des missions un petit peu précises. On ne va peut-être pas y entrer aujourd'hui parce que vous êtes en train d'y réfléchir certainement. On a évoqué les jeunes qui pourraient être une priorité parce que vous connaissez quand même beaucoup le monde étudiant. Vous avez eu affaire à beaucoup de personnes qui faisaient des études en théologie ou autre. C'est peut-être là aussi une des missions principales, pas la seule, mais...
L'archevêque, à la fin de l'ordination, m'a déjà donné quelques orientations. Donc, les jeunes, l'ensemble de la pastorale des jeunes, les séminaristes, la vie religieuse aussi. Et puis, plus particulièrement, la ville de Reims, les espaces missionnaires de la ville de Reims. C'est clair que pour moi, les prochaines semaines vont être vont se passer surtout à l'écoute. Ça sera ma priorité, découvrir, écouter, rencontrer des personnes. Il y a beaucoup de dimensions à faire, donc ça va prendre un peu de temps. Et j'espère que je pourrai faire ça de manière efficace. Mais de fait, les jeunes, à cause de mon expérience aussi, ça fait partie des priorités. Une des raisons pour cela, c'est que c'est dans la jeunesse que se font une série de choix très importants et qui ouvrent à Dieu, qui ouvrent à un sens et en même temps, si elles sont soutenues par une relation au Christ, peuvent se faire de manière beaucoup plus forte. Du coup, je pense que c'est un des lieux où on a le plus à apporter quelque chose dans l'Église.
Alors ensuite, vous allez aussi participer en tant qu'évêque à des rencontres nationales, voire internationales avec les évêques, car vous êtes évêque du diocèse de Reims, mais évêque aussi. Et ça aussi, ça, vous avez eu l'occasion de voyager, de rencontrer des personnes, mais d'avoir concrètement une rencontre avec les évêques de France, avec ceux de la province de Reims. Là aussi, ça va être pour vous quelque chose sans doute d'un peu nouveau, bien que vous connaissiez déjà pas mal de responsables et d'évêques.
Nous avons déjà eu d'ailleurs, il y a une bonne semaine, une rencontre des évêques de la province. Et demain, il y a de nouveau une rencontre avec les évêques et les vicaires généraux de la province. Donc la province, c'est le diocèse de Reims et puis les diocèses qui l'environnent. Je peux dire que autant j'avais eu beaucoup de contacts avec des évêques dans différents pays auparavant, autant en tant que nouvel évêque, jeune évêque, j'étais très frappé par la fraternité, la joie des autres évêques d'accueillir quelqu'un avec eux. Et bien sûr, il y a déjà ce soir une rencontre par Zoom avec la conférence épiscopale pour préparer la rencontre de l'assemblée plénière qui aura lieu à Lourdes en novembre, la rencontre à Marseille le week-end prochain, dans 10 jours, où le pape vient visiter Marseille et il y aura toute une série d'événements tournés vers la Méditerranée. C'est toujours bon pour le local d'être irrigué par ce qui se passe dans le monde entier.
Et s'insérer dans une histoire, parce que dans votre feuillet d'ordination épiscopale, il y a un vitrail de Chagall, et juste à côté, dans la cathédrale, il y a les évêques suffragants de la province. Et dans l'histoire, c'est Patrick Demuy, notre historien qu'on fait venir souvent, qui nous rappelait que Thérouanne, parce que vous êtes aussi évêque titulaire de Thérouanne, alors tout le monde va se dire, mais où est Thérouanne, alors que c'est dans notre région, en tout cas du côté de la Somme, que c'était une ville diocésaine où il y avait un évêque qui dépendait du diocèse de Reims, enraciné aussi dans un territoire, dans une province.
Il y a eu même une époque où le diocèse de Thérouanne était un grand diocèse.
Grand diocèse.
Mais c'est une tradition dans l'Église que les évêques auxiliaires sont reliés, puisqu'c'est l'évêque ou l'archevêque qui est l'évêque du diocèse. L'évêque auxiliaire doit être relié à un diocèse du passé. Et là aussi, ça nous rappelle que le christianisme a une longue histoire, et c'est important, c'est pas simplement pour se rappeler ses racines, c'est aussi que dans cette histoire, il y a eu des hauts et des bas. Et ça nous donne de l'espoir sur le fait que il y a eu des hauts et des bas, des grands changements, et nous sommes à une période où nous entrons dans des grands changements, mais l'Église a plusieurs fois vécu cela au cours des siècles, et on est toujours ressorti belle, purifiée, fortifiée. Je pense qu'on peut espérer cela aussi pour les prochaines décennies.
Vous êtes dans l'espérance parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens désespérés. Vous avez évoqué des burn-out, vous avez évoqué des gens qui sont plus ou moins en dépression, en stress. Et pourtant, vous dites que cette église-là, qui a connu des tourmentes et qui en connaît autant encore, elle vit d'espoir à la lumière des JMJ, à la lumière des pèlerinages un peu partout dans le monde. Et c'est ça dont vous êtes porteur, Monseigneur.
Je l'ai dit à la fin de l'ordination, un évêque est témoin du Christ ressuscité. Il est successeur des apôtres et les apôtres sont les témoins du ressuscité. Or, le ressuscité apporte l'espérance. Et c'est quelque chose qui dépasse les forces humaines. Je ne suis pas uni en train de... C'est pas du pensée positive. C'est la foi qu'il y a une force qui vient de Dieu, qui dépasse ce que nous pouvons faire et qui fait que nous sommes aussi entre les mains de Dieu. Fondamentalement, c'est cela le message. Mais vous avez raison de rappeler des choses qui sont aussi des signes d'espérance, comme les JMJ, où les jeunes ont vu qu'ils n'étaient pas seuls. C'est-à-dire que les petits groupes de jeunes de chaque lieu se sont retrouvés avec des centaines et des centaines de milliers de jeunes et ont vu que d'autres croient. Et la question, c'est que on veut toujours que les choses soient comme on les faisait avant, et ça ne se fait pas. Ça change.
Il faut prendre la tradition telle qu'elle est, mais sans regarder dans le rétroviseur, en prenant le meilleur de ce qu'on a reçu pour le transmettre. Mais en même temps, il faut regarder devant et vous êtes pour cette innovation, pour ce changement. Alors on va bien en profiter parce qu'aujourd'hui, Monseigneur, c'est notre première rencontre sur RCF et on sait que le temps passe très très vite avec vous. Il nous reste 2 ou 3 minutes avant la fin de cette émission. Et puis profitez aussi de votre présence dans le diocèse de Reims parce que on peut pas faire de projection, mais elle ne sera pas, bon, bien sûr éternelle, mais il faut profiter de votre présence avec celle de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, parce que vous êtes ici dans un diocèse, comme partout dans les ministères et les paroisses, entre guillemets, de passage, même si ce passage peut durer quelques années. Mais bon, voilà.
Quand on dit oui, ce n'est pas pour penser à la suite, c'est vraiment pour s'enraciner là où on est envoyé. Je suis très heureux d'être ici et je laisse le reste à la providence de Dieu.
On aura bien sûr l'occasion de vous retrouver le vendredi en alternance avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. On aura le plaisir de vous accueillir bien sûr sur RCF et puis quand vous voulez avec des, on ne sait jamais, des jeunes, des étudiants, des émissions
très spéciales,
inventées, créées, parce que Alexis, on aimerait bien qu'il y ait un petit peu d'innovation.
J'allais dire, nos studios sont ouverts.
Oui, et puis
toutes les initiatives, on les accepte.
Pas être dans la routine habituelle, si on pouvait avoir des petites idées un petit peu nouvelles. On en a quelques-unes, mais il faut pouvoir les mettre en place aussi et avoir des
et puis il y a des passerelles qui peuvent exister avec des émissions qui sont déjà en place. Je pense aux jeunes de Bulles étudiantes qui sont à la Cato ici campus de Reims, avec nos jeunes de Sportiplex le samedi soir qui commentent le sport en direct, et il y a des liens aussi à faire avec l'église et les engagements associatifs. Donc il y a des choses, je pense, des passerelles qui existent. On va en échanger et puis on va voir ce qu'on peut mettre en place.
Et puis vous apporterez votre expertise, votre lumière et puis l'espérance dont vous êtes porteur et le souffle qui nous a été donné de partager samedi dernier. Et on a vécu, c'est vrai, Alexis,
c'est un très,
très,
bon
très, très bon moment. Et je crois que les auditrices et les auditeurs aujourd'hui qui nous écoutent, et qui ont eu la chance d'être à la cathédrale, de nous écouter, et même ceux qui ne nous ont pas entendus, ont entendu des témoins ce soir qui nous disent, ben oui, ça valait le coup d'y être, et ça vaut le coup aussi de commencer avec vous, Monseigneur, une nouvelle aventure.
Et c'est vraiment commencer ensemble. Moi, j'ai très très conscience du fait que je vais être guidé, accompagné par tous ceux qui connaissent le diocèse. Donc c'est vraiment main dans la main qu'on avance.
Merci en tout cas, Monseigneur Étienne Véteux, d'avoir été avec nous pour cette première en direct. Merci Alexis.
Merci à vous Jean-Pierre, et puis on vous retrouve demain matin à partir de 7h, mais également dans le magazine régional demain soir, avec une invitée, Sœur Aude, responsable du foyer Saint-Sixte de la communauté du Chemin Neuf, pour partager aussi l'actualité de ce foyer Saint-Sixte.
Voilà, et puis vendredi matin, ce sera Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, et puis le vendredi suivant, Monseigneur Étienne Véteux, on vous retrouve. Et puis si besoin est avant, bien entendu, comme on l'a dit un peu familièrement, comme on dit-on souvent nous,
Je vous laisse te dire, Jean-Pierre, parce que c'est votre expression et ça vous fait très envie.
J'allais dire, elle fait très rurale, mais vous avez un rond de serviette ici, comme on dit. Et bien sûr, Monseigneur, vous êtes ici chez vous.
C'est une très belle expression.
Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, 19h, le journal national proposé par RCF. Puis ensuite, à 19h12, une méditation avec le diocèse de Reims et les Ardennes. Bonne soirée, Monseigneur, et à bientôt.
Bonne soirée.
Au revoir.